vous êtes bien sûr le nouvel épisode de Nouvelle Porte et nous avons pour cette édition un beau message à passer avec notre invité qui est Maëlys Josso. Maëlys est architecte d'intérieur et elle est passionnée par les objets, les espaces et surtout les humains qui vivent dans ces espaces. Parce que oui, vous allez voir, le design d'intérieur, ce n'est pas forcément Pinterest, ce n'est pas forcément juste de l'esthétique, ce n'est pas forcément juste des meubles en bois bien organisés, mais c'est aussi toute une histoire, c'est aussi tout un attachement ou un détachement à avoir avec ces objets, une manière d'organiser l'espace pour arriver à se libérer plutôt que à s'emprisonner. Voilà, tout plein d'axes qui sont développés par Maëlys lors de cette très belle discussion que nous avons eue à Sofa. Je vous laisse directement découvrir et j'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalé. Voilà. Merci encore, Maëlys. Et puis, je laisse place à la discussion. Bonjour, Maëlys.
Bonjour, Fabrice.
Et merci d'être venu pour ce nouvel épisode de Nouvelle Porte. Comme à chaque fois, je te laisse te présenter un petit peu et après, on attaquera directement sur ton premier sujet de curiosité.
Ok. Alors, du coup, Maëlys. Alors, je t'ai rencontré, Fabrice, il y a environ un an, au même moment où je crée mon entreprise. Donc, moi, je suis architecte d'intérieur, je suis coach et enseignante.
Très bien.
Voilà. Mon premier sujet de curiosité, j'avais envie de parler de la richesse. Qu'est-ce que c'était la richesse pour moi, les enjeux que ça impliquait par rapport à mon entreprise? La relation que j'avais avec l'argent, la consommation, tout ça. Et quand on monte une entreprise, en fait, on se pose beaucoup de questions par rapport à sa survie. Déjà, je trouve que ça crée une espèce d'instinct de survie, de se dire j'ai plus le salaire qui va tomber tous les mois, il faut que je trouve des clients, coûte que coûte, etc. Puis tu te rends compte que tu trouves tes clients et puis que ça marche et puis que... Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment pour ça que tu as créé ta boîte? Oui, mais il y a la question de l'argent, etc.
C'est vrai qu'il y a un jeu qui se crée quand tu montes l'entreprise qui est complètement différent de quand tu es en salariat, quoi.
Exactement.
Cette espèce de double survie, parce que tu as ta survie à toi en tant que personne, que tu as tout le temps, même quand tu es salarié. Et après, quand tu montes ta boîte, c'est vraiment la survie... de l'activité que tu as lancée, et puis tu as plein d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Quoi. Le fait que tu montes quelque chose, il faut que ça marche pour rapporter de l'argent, donc cette survie-là, puis en même temps, parce que c'est quand même quelque chose où tu mets un petit peu de toi dedans aussi, et si ça ne marche pas non plus,
Exactement.
Tout qui s'arrête. Quoi.
Et du coup, c'est vrai que quand j'ai créé cette entreprise, je l'ai créée sur un modèle, sur le seul modèle que j'avais déjà connu, c'est-à-dire l'ancienne boîte où j'avais été, où j'avais bossé pendant presque 7 ans. Et... Donc avec des bureaux, avec plein d'assurances, avec un statut de société assez compliqué, tout ça, tout ça. Et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai envie de faire des projets qui sont plutôt simples.
Attends, hop. Étienne, est-ce que tu peux laisser fermer juste pendant qu'on finit l'enregistrement? C'est cool. C'était le petit aparté. On est à Sofa et Étienne nous gardait la porte ouverte. Mais c'était gentil parce qu'il fait chaud, c'est vrai, hein, il fait chaud. Mais il fait quand même moins chaud qu'ailleurs. Petite pub pour Sofa, en été, il fait vachement frais quand même entre ces murs. Sofa du premier arrondissement, bien sûr. L'autre, c'est très très chaud avec les baies vitrées. Je laisse continuer, Maëlys.
Oui, merci. Tout ça pour dire que je me suis beaucoup posé la question de l'argent. Et au final, même ça a étendu cette question-là bien au-delà de ma société. C'était dans mon mode de vie, tout simplement, de me dire, aujourd'hui, comme je dirige mon entreprise, je peux aussi décider de me dire combien je gagne à la fin du mois.
Ouais.
Et de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout cet argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer autant? Et au final, il s'est passé quelque chose de super bizarre dans ma vie, c'est que j'ai jamais eu aussi peu d'argent, mais j'ai jamais été aussi riche.
D'accord.
Et j'ai été riche de plein de choses, de rencontres, de nouveaux projets, d'argent qui rentrait quand même dans la boîte, d'opportunités de créer de rencontrer des gens qui voulaient bien me donner de l'argent pour réaliser des projets, des retraites, des constructions. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas parce que moi, je ne me verse pas un gros salaire en ce moment qu'il n'y a pas d'abondance autour de moi.
Oui, d'accord. Tu as commencé à détacher la notion d'abondance de juste l'abondance financière et de.
Bah, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais avoir beaucoup d'argent, mais si j'avais toujours cette notion de manque, j'allais toujours être pauvre. Tu vois? Donc, je pourrais avoir autant d'argent que je veux. Si j'ai l'impression d'en manquer, j'en aurais jamais assez. Alors que finalement, m'autorisant à moins consommer, en avoir moins et à faire les choses plus simplement, et à me porter plus sur la créativité, sur du lien, sur les choses que j'aime faire, je me rends compte que ça crée une richesse autour de moi. Et en fait, cette richesse, elle est plus, je sais pas comment dire, je la trouve plus dense, plus nourrissante.
D'accord.
Tu vois
Ouais.
que les chiffres sur mon compte en banque.
Oui, c'est sûr.
Voilà.
D'accord. Parce qu'avec les chiffres sur le compte en banque, tu peux t'acheter des trucs. Mais si tu peux les avoir sans forcément les acheter, ça peut être aussi plutôt pas mal.
Voilà,
Moi, je vois ça un peu
exactement.
comme ça aussi de mon côté.
C'est exactement ça. Si tu veux, ça m'a aussi. Enfin, si je devais l'expliquer physiquement. Parce que c'est toujours quelque chose que je mets en relation aussi avec la. J'aime bien mettre différentes choses, tu vois, en relation, la science, la philosophie, mes réflexions personnelles, etc. Je me rends compte qu'en ayant un certain lâcher-prise sur l'argent, je pouvais connecter des parties de moi qui faisait des souhaits, qui allait dans des intentions plus pures, des choses comme ça. Et en fait, cette idée, là, je viens de lire un livre, bah, du coup, c'est le mec dont je te parlais, Deepak Chopra, qui explique ça d'une façon hyper simple. Donc, je serais incapable de réexpliquer, mais lisez ses bouquins, où il explique en fait que physiquement, les choses matérielles qui se produisent dans notre vie viennent d'une idée. Ça vient toujours d'un lieu immatériel qui finit par une idée, ça finit par être une impulsion d'énergie, une impulsion qui va se matérialiser sous forme de façon beaucoup plus dense et qui va finir par s'organiser. Toutes les cellules, tous les atomes vont finir par s'organiser jusqu'à matérialiser et densifier les choses dans la vraie vie, dans la vie réelle. Et du coup, quand tu commences à avoir ces idées qui naissent au fur et à mesure, qui partent du chaos pour venir dans des choses beaucoup plus réelles, tu te dis, est-ce qu'en fait je peux provoquer ma richesse?
Oui, d'accord, je vois.
Juste par l'intention. Et ça peut paraître complètement farfelu de dire ça, parce que mais la plupart du temps, on est dans des systèmes qui nous privent d'argent, où on se prive d'argent, où on se prive de richesse, où on se prive d'exploration soi-même. Et depuis que j'ouvre un petit peu ça, je me dis, bah, avant, je ne me serais jamais autorisée à me dire, je vais me construire ma maison. Parce que je me dis, je suis trop précaire, je suis entrepreneur. Voilà. Et puis, avant, je ne me serais non plus jamais dit, je vais créer ma société, où je vais organiser des retraites, où je vais me lancer sur un projet, des gros appels d'offres alors que j'ai 6 mois de boîte. Voilà. Et en fait, le fait de m'autoriser tout ça, bah, ça crée des événements, ça crée des choses, ça crée de la richesse. Et finalement, je me sens plus riche, beaucoup plus riche que quand je regardais les sous que j'avais sur mon compte en banque.
Et puis, en ce moment, j'avais une réflexion par rapport à ça aussi. J'ai pas lu ce livre de Deepak Chopra,
Ouais.
mais d'autres trucs que j'avais lus. Il y avait vraiment un lien, comme tu dis, entre le fait que si jamais tu as une pensée ou des idées, ou une intention ou un ressenti, au bout d'un moment, et ben, du coup, ça finit par se matérialiser.
Ouais.
Et du coup, c'était rigolo parce que j'avais discuté avec une amie aussi pour l'argent, tu vois, et j'avais envie de lui apporter un peu, enfin, cette idée-là. Mais je trouve que c'est compliqué parce que si jamais tu forces une intention, par exemple une personne qui ne veut plus avoir de problème d'argent,
Ouais.
si jamais tu lui présentes ça comme idée, du coup, elle va se dire, bon bah d'accord, alors dans ce cas-là, ce qu'elle va
Je
faire,
n'ai plus de
c'est que
problème.
je vais me lever tous les matins et je vais me dire, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, tout va se passer, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent.
Ouais.
Et en fait, il y a une notion d'alignement par rapport à ce que tu te
C'est
dis
sûr.
et par rapport à ce que tu ressens et ce que tu penses derrière. Et donc du coup, cette personne, quand elle se répète, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, mais en fait, son intention qu'il y a derrière, c'est j'ai vraiment peur de plus avoir d'argent, j'ai vraiment peur de plus avoir d'argent, et ben du coup, elle se retrouve peut-être à faire l'effet
Inverse.
l'effet inverse de ce qu'elle a envie. Et je me pose cette question, je me dis voilà, peut-être que quand il y a plein de gens qui expriment leurs problèmes, par exemple, voilà, bon, voilà, en ce moment j'ai pas d'argent, ou en ce moment je rencontre personne, ou en ce moment il y a ça qui va pas, ou il y a ça qui va pas. En fait, ils valorisent cette intention et ils l'affirment. Et du coup, en le faisant, bah, peut-être que oui, derrière ça se matérialise comme ça. Donc en fait, ils appellent les choses qu'ils disent comme être désagréables, mais en fait, ils y posent l'intention, donc du coup, ils l'appellent, quoi.
Ouais.
Ils se retrouvent à s'enfermer, en fait. Enfin, on se retrouve à s'enfermer dans des situations juste parce qu'en fait, on les a appelées. Donc du coup, c'est assez rigolo de voir ça comme ça, je trouve.
Bah, en tout cas, je trouve que je peux plus facilement parler de ce qui m'arrive en ce moment parce que c'est vrai que pour chaque cas, je pense que c'est différent.
Différent, ouais, bien sûr.
Mais par exemple, il y a eu un moment où, comme j'avais moins d'argent, bah, j'avais toujours envie de m'acheter des. Je manquais toujours des choses que j'avais envie de m'acheter, tu vois. Ah ouais, ah, cette belle robe là, je peux pas me l'acheter, tu vois. J'étais un peu frustrée, quoi. Et en fait, quand j'ai fait. Là, j'ai fait un énorme ménage chez moi où j'ai enlevé la moitié de mes affaires parce que c'était des affaires qui ne me correspondaient plus, que je me chargeais inutilement. J'avais un tout petit endroit pour stocker autant de choses. Et du coup, j'ai vraiment remis, je ne sais pas comment dire, de la conscience sur ce qui m'entourait. Pas seulement vivre avec mes 200 bouquins, vivre avec toutes les fringues que j'avais, les objets, etc. Mais de me dire, en fait, ça, c'est là, je le sais, et c'est des objets qui sont à mon service, et pas l'inverse. Je ne suis pas au service de mes objets. Et du coup, j'ai remis de la conscience sur plein de choses que j'avais mis de côté, et je les ai redécouvertes, et je me suis dit, mais tout ce que j'ai, en fait, autour de moi, c'est fou, déjà. Tu vois ce que je veux
ouais,
dire? Au lieu de me
dire,
je manque de tout, j'ai changé mon point de vue en me disant, c'est fou comme je suis riche de plein de choses. Et de me dire, ce bouquin, je ne l'avais plus vu, je ne le voyais plus. Je vivais avec tous les jours, mais je ne le voyais plus. Cette boîte aussi, elle est vide, il n'y a rien dedans. Bah, en fait, j'avais plein de trucs à ranger, alors qu'au début, je m'étais fait une liste où il fallait que j'aille acheter une boîte. C'est des trucs un petit peu étranges à dire comme ça, mais c'est parce que ça a totalement changé ma vision de la richesse qui m'entourait déjà. Au lieu de me dire, je suis toujours dans une situation de manque, je me suis dit, c'est fou tout ce que j'ai. En me disant c'est fou tout ce que j'ai, bah déjà ça m'a coupé l'envie d'avoir plus, ça m'a donné envie de partager parce que je me suis rendu compte de tous les bouquins par exemple que j'avais déjà lus, que je trouvais géniaux mais que je n'allais pas forcément relire, donc j'ai invité ou j'ai donné mes bouquins ou voilà, et du coup on m'en a redonné des bouquins que je n'avais pas lus, donc j'avais plein de bouquins qui arrivaient sans que j'aie besoin de les acheter, pareil pour les fringues, et voilà, enfin c'est je trouve qu'il y a un petit lâcher-prise aussi, tu vois, c'est pas de se dire tous les jours je vais être plus riche ou je vais être dans l'abondance, etc. C'est un petit lâcher-prise et une question de présence aussi par rapport à sa vie, ce qu'elle est, comment elle est remplie en fait, et pas essayer de remplir autre chose.
Oui, déjà faire un état des lieux sur comment c'est rempli, c'est déjà un bon état des lieux à faire.
Ouais,
pour le matériel, je fais un peu pareil que toi sur… tu sais, il y a le petit principe de si jamais tu t'es pas servi d'un objet depuis un an, ça veut dire que tu t'en serviras plus jamais.
Ouais.
Et du coup, de temps en temps, je me pose et puis j'essaie de conscientiser justement ce que j'ai dans l'appartement. Et puis je me dis, oui, en effet, là, si j'habitais tout seul, parce que du coup, j'habite pas tout seul, si j'habitais tout seul, il y aura un paquet de trucs que j'enlèverais. Parce qu'au final, je me sers pas de grand chose. Et j'ai encore plus pensé avant-hier matin, parce que je suis parti de chez moi sans prendre ma clé. Donc du coup, je me suis enfermé dehors.
Ouais.
Et du coup, je me suis retrouvé en short comme ça, avec mon sac sur le dos. Et puis je me suis dit merde, Lauriane n'est pas là parce qu'elle est partie, à Rennes pendant 3 jours. Elle rentre que ce soir, mercredi soir. Et je me suis dit merde, quand je vais faire, bon bref, pas grave, je pourrais dormir chez un pote, mais est-ce qu'il me manque pour des objets pour bosser, quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'avais même mes micros, j'ai toujours ça sur moi, j'ai toujours mes micros pour les podcasts. Donc ça veut dire que je peux même continuer à m'amuser à faire des podcasts. J'ai mon ordinateur, j'ai mes chargeurs, j'ai des affaires sur moi. J'ai mon argent et puis j'ai mon téléphone. Bah en fait, j'ai tout et au quotidien, je n'utilise pas plus.
Et tu ne trouves pas que ça fait du bien?
Ah mais si, clairement, bien sûr.
C'est libérateur, quoi.
Mais j'adore l'idée de me dire que j'ai ma vie dans un sac.
Ouais.
Et quand au mois de mars, on est parti au Costa Rica pour 4 semaines, je sais que même si j'étais parti 2 semaines ou si je partais 6 mois, je partirais toujours qu'avec un sac et rien de plus. Et du coup, c'est trop bien de se dire, il y a moi, il y a ce que j'ai besoin, entre guillemets, dans ce sac, et il n'y a plus rien d'autre. Et du coup, c'est super allégeant, quoi.
Et pourtant, ton voyage t'a terriblement enrichi.
Ah, le voyage était super, ouais, bien sûr.
Ça t'apporte tellement. Parce que tu vois, il y a aussi une autre chose, c'est que je trouve que la notion de richesse aujourd'hui, elle est jumelée avec la notion de propriété.
Ouais.
Et ça, en fait, on se dit, je suis riche ou alors je suis en sécurité si j'ai des choses qui m'appartiennent à moi. Et je me rends compte que la richesse la plus nourrissante que j'ai créée cette année, c'est la richesse qui était partagée. C'est-à-dire, c'était par exemple des événements que j'ai organisés, des conférences que j'ai organisées, ça m'a fait rencontrer du monde. Ça, les gens ont participé au projet, se sont bougés, etc. Ça a créé des super moments. On n'avait pas beaucoup d'argent pour les faire et pourtant, bah, c'est arrivé. Donc, les projets ont pu aboutir, notamment, je pense, à la retraite de yoga qu'on a fait. L'objectif, ce n'était pas de se faire de l'argent, mais c'était que l'événement existe. Et du coup, on demandait un peu à chacun de contribuer. Et du coup, en partageant un peu tout ce qu'on avait, c'est vrai que cette richesse, elle était... Le résultat était le même que si je m'étais payé une retraite de yoga, je ne sais pas, 700 ou 800 euros comme tu le trouves aujourd'hui dans le commerce. Mais finalement, de faire cette richesse partagée, bah, on a eu le même résultat. Et c'est vrai que c'est cette notion, tu vois, c'est peut-être plus la notion de propriété d'argent en fait qui me questionne en ce moment, de me dire... Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça sur mon compte? Est-ce que si je crée du lien, que les gens sont... Enfin, c'est des réflexions, mais dans son quotidien, au jour le jour, tu vois, de le mettre en place, c'est pas si évident que ça, de se dire, est-ce que je partage, même dans la conception des logements que je fais, est-ce que les gens sont prêts à partager une machine à laver? Est-ce qu'ils sont prêts à partager une voiture? Est-ce qu'ils sont prêts à partager un jardin? C'est pas évident aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la notion de richesse, elle est jumelée à la notion de propriété. Il faut que ce soit le sien.
Oui, c'est ça. C'est la notion. En plus, c'est la notion de, oui, de propriété matérielle en plus de ça. Parce que c'est souvent on dit, mais qu'est-ce que j'ai construit dans la vie? Qu'est-ce que j'ai? Si t'as pas de matériel et que t'as pas ta maison et que t'as pas tes projets concrets ou que t'as pas ouvert ton lieu ou quelque chose comme ça, t'as tendance à te dire, bah en fait, il y a que moi.
Ouais.
J'ai rien construit. Alors après, t'as aussi les relations. Tu peux te dire, bon, bah là, j'ai construit une relation, donc du coup, je suis riche de ma relation de couple, ou je suis riche des relations que j'ai avec mes amis, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un décrochage entre les deux mondes, quoi. C'est un peu le ressenti que j'ai.
Exactement.
Il y a le monde de la relation, de ce qui se passe entre les gens et ces choses-là, du lien, comme tu disais. Et puis, d'un autre côté, il y a un monde matériel, quoi. Il faut faire des trucs.
J'ai l'impression que ce pont, j'arrive à le faire entre ces deux mondes. Mais par exemple, quand tu as de l'abondance, par exemple, tu veux créer un projet et tu as besoin d'argent et tu en demandes sur des plateformes ou tu en demandes à des investisseurs, j'ai la sensation qu'en fait, cet argent, il faut le faire fructifier ou il faut le redistribuer. Tu vois, il faut que ça circule en fait. Et cette notion de richesse matérielle, j'ai la sensation que si tu l'as... Si tu l'as pour toi, dans cette notion de gain personnel et privé, donc il faut quand même pouvoir vivre et subvenir à ses besoins, ça c'est vivre dignement, etc., et que tu te sentes en sécurité, mais j'ai la sensation que si ça devient le critère absolu, ça va s'appauvrir en fait. L'argent va s'appauvrir entre tes mains et qu'en fait, il faut le faire circuler. Et en fait, je me rends compte que le faire circuler, c'est... encourager les projets des autres, les soutenir aussi dans leurs projets, même si ce n'est pas forcément financièrement, mais c'est par des mises en relation, c'est créer de la richesse pour les autres aussi. Donc voilà, c'est toutes les réflexions que j'ai en ce moment sur l'argent.
C'est intéressant. Ça fait un petit moment, moi, du coup, là, que bon, comme je te disais quand on s'est vu au tout début, avant qu'on commence à enregistrer, que je suis très content de pouvoir être dans une période de ma vie où j'ai pas besoin de réfléchir à faire rentrer de l'argent parce que j'ai réussi à avoir des projets qui m'ont fait rentrer suffisamment. Donc là, c'est cool. Et ça va me permettre de tester ce que je voulais tester depuis le début que je me suis relancé indépendant il y a 3 ans. C'était de me dire, dès le moment où un projet, tu ne le prends pas, où tu as la possibilité de donner le projet à quelqu'un, alors fais-le. Et du coup, là... à part si c'est vraiment un projet qui m'intéresse en tant que tel, je trouve ça super cool de pouvoir se dire non, je ne prendrai pas un projet pour l'argent. Et je le donne directement à des personnes. Et je me dis que si, je sais pas, si le travail que je fais continue à m'apporter des gens qui ont envie de travailler avec moi et que moi je ne travaille pas avec eux, ben du coup, si je peux continuer à lier les projets avec d'autres gens pour qu'eux travaillent aussi et que moi j'en récupère 0 euro, je m'en fiche, et ben tant mieux parce que du coup, ça crée une abondance, mais autre que justement, comme tu disais, cette abondance financière.
Ouais.
Je remplis pas mon compte en banque, mais par contre, et ben ça fait circuler. C'est un peu comme si c'était une sorte de canal de transit, en fait, tu sais,
ouais.
De se dire, bon, bah, il y a des gens qui peuvent venir te voir, toi, et du coup, ces gens-là, ils ont envie de te donner de l'argent parce qu'ils veulent que tu bosses sur les projets. Mais si toi, tu connais des gens qui peuvent mieux bosser que toi, peut-être même que toi-même, bah, du coup, toi, tu fais juste une sorte de catalyseur et ça redistribue. Et ce modèle, je l'ai pas mal en tête et là, je me l'applique à moi parce que bah, c'est le plus simple pour tester. Mais je me dis qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont des postures dans notre monde qui sont catalyseurs justement, en fait. Tous les gens qui travaillent depuis très longtemps dans leur métier, qui sont super connus et qui continuent pour pouvoir nourrir leur boîte, d'embaucher et de faire rentrer encore de l'argent et que ça devienne énorme. Et puis après, ils achètent des plus gros bureaux et puis ils font plus d'investissements et puis ça part dans des espèces de délire comme ça parce qu'il faut que l'argent ça reste chez eux forcément. Sinon, un jour, ils vont manquer et du coup, ça ira moins bien. Je me dis que ces gens-là, si justement ils basculaient de cette espèce de modèle en se disant bon, bah là, ça y est, c'est bon, je sais que je gagne assez pour moi. Et bien, à partir de maintenant, je ne prends plus rien et je distribue le plus possible de tout l'argent qui veut rentrer chez moi. Au lieu que ça reste chez moi, je le fais circuler. Et là, ça ferait quelque chose de super intéressant, je pense.
Ouais.
Parce que là, ça pourrait vraiment créer de l'abondance. Et en plus, ça crée une dynamique. De ma petite échelle, je le vois vraiment, quoi. C'est quand tu donnes quelque chose que tu aurais pu faire toi comme travail à quelqu'un d'autre sans lui dire, bon, bah, vu que je t'ai apporté l'affaire, je vais récupérer 10%, quoi que ce soit. Tu dis
Ouais.
juste, tiens, je te mets en relation, tu te débrouilles. Boum. Et tu fais juste le pont. Et en plus, tu fais aussi un peu le tiers de confiance. Donc, tu as la relation plus le financier qui passe. Et puis, ça transite. Et puis, voilà. Et puis, la personne, du coup, elle est contente parce qu'elle peut travailler. Ça lui fait aussi une bonne rencontre. L'autre personne est contente parce qu'en fait, elle n'a pas à chercher plus et elle peut juste faire confiance. Et puis, voilà, ça circule. Et c'est quand même super cool.
Ouais, tout à fait.
Donc je te rejoins sur cette notion de différence de notion sur la richesse, quoi, clairement.
La propriété et la richesse. Et tu sais, quand j'ai lu, donc c'était pareil, c'était ce même monsieur, là, Deepak Chopra, qui expliquait que pour faire venir l'abondance, il fallait vivre dans le luxe. Alors là, ça m'a choquée.
Ah, ouais, il a dû faire volontiers. Il aime bien faire
Oui, il
ça,
aime bien, ouais. Et
les tournures qui
ça m'a
te.
questionnée, parce que justement, je me suis dit, oui, mais bon, le luxe, etc. Moi, je suis architecte d'intérieur, tu sais, le luxe, j'ai quelques réserves par rapport à cet univers-là. Et en fait, en lisant ce qu'il expliquait, j'ai trouvé que ça donnait vraiment tout son sens, parce que c'était aussi cette recherche de la beauté et des belles choses dans ta vie, en fait, de rendre ta vie belle. Et effectivement, je me suis rendu compte que, sans être dans le luxe comme on l'entend, parce que le luxe aujourd'hui, on associe ça aussi à la société de consommation. Mais par exemple, quand tu essayes de consommer, bah, peut-être qu'au lieu de t'acheter la table chez un fournisseur du Nord qui fait des mobiliers à très bas prix, tu vas voir ton copain et tu t'achètes, et ton copain qui est menuisier, tu te fais un beau plan de travail en bois massif, etc. Et ben, tu as réfléchi, tu as allé rencontrer quelqu'un du coin, tu as utilisé un beau matériau, du coup, chez toi, ça respire autre chose aussi, tu vois, t'as pas la même ambiance. Et ben, c'est sûr que tu auras payé ton plateau du même prix que si tu avais acheté la table complète chez ce fournisseur suédois, mais. Au final, tu as un bel objet et quand tu fais attention à toutes ces choses-là, je trouve que ça enrichit ta vie aussi parce que après, tu sais que bah, ton mobilier, tu peux le faire un peu peut-être toi-même, tu vois. Donc au lieu d'être toujours dépendant de quelqu'un d'autre pour te le fournir, bah, toi, en fait, tu vas commencer à t'intéresser aux choses et à savoir que tu peux te faire toi-même du très beau mobilier, que tu n'as pas besoin en fait de de toujours renouveler ça parce que tu sais que ton mobilier, si tu l'achètes chez ce genre de fournisseur, il va être obsolète d'ici 3 ans, 4 ans et 1 an si tu as déménagé. Mais si tu achètes des bons produits, que tu te fais bien à manger, que tu sais ce que tu mets sur ta peau comme cosmétique, comme gel douche, comme shampoing, que les fringues que tu achètes, eh ben, tu en achètes 10 fois moins, mais le jour où tu t'achètes une fringue, c'est un mec qui a vraiment. Bah, je trouve que tu dégages aussi autre chose à la fin. Enfin, tu as une exigence un peu par rapport à toi, par rapport à. Et c'est ça que j'ai compris dans ce que disait Deepak Chopra. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que cette notion de richesse aussi, c'est pas. Si tu vas toujours dans les trucs les moins beaux, les moins. Tu sais, qui sont toujours un peu avec des matériaux, tu sens qu'ils sont pas sains, tu sens qu'ils sont pas bons pour toi, et à la fin, je trouve que tu t'appauvris de quelque chose aussi. Je sais pas si tu.
Puis j'ai un peu ce ressenti là aussi, ouais, je suis d'accord. Puis ça rejoint ce que tu disais aussi sur le fait de conscientiser autour de toi le matériel et puis conscientiser tout ce qui s'y passe. Comme quand tu disais pour ton appartement, j'ai plein de trucs et en fait j'en ai pas conscience de la moitié. Et ben ça c'était pour la quantité, mais pour la qualité au final c'est pareil quoi. J'ai plein de choses, ma journée elle est remplie de plein de trucs. Mais en termes de qualité et de luxe au final de la chose, est-ce que je suis dans la bonne qualité ou pas quoi?
Et tu vois, il y a 1 mois, je suis allée à Rome avec mon compagnon. Et ce qui nous a un peu choqués, c'est que cette ville rayonne toujours des constructions qui ont été faites il y a 2000 ans. Et on s'est dit, le rayonnement de ces œuvres qui sont incroyables, quoi. Alors, à quel prix à l'époque, comment ça a été fait, je ne sais pas. Tu vois, il y a des questions à se poser. Ce qu'on pouvait constater, c'est que la basilique Saint-Pierre, qui ne s'est pas construite sur 100 ans, qui a mis des siècles et des siècles à se construire, elle rayonne et elle attire. Elle est toujours un aimant, quoi, pour des centaines de milliers de personnes. Et je me dis, c'est fou parce que, par exemple, à Rome, le patrimoine qui est là, qui perdure, qui est solide, qui s'inscrit dans des matériaux durables, ça rayonne toujours, quoi. Il y a toujours autant de gens qui viennent voir ça. Et quand je vois, par exemple, ce qu'on construit aujourd'hui, qui est quand même de la construction de mauvaise qualité, parce qu'on veut aller vite, on veut que ce soit pas cher, et il faut que tout le monde puisse accéder à de la consommation, comme. Enfin, tout le monde va avoir son appartement, son très grand appartement, etc., rapidement, etc. Donc, on est dans cette fabrication, mais qu'est-ce qui va nous rester, en fait? Est-ce que ça va traverser le temps? Est-ce que dans 100 ans, qu'est-ce que ce sera? Tu vois, cette richesse qu'on est en train de créer, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment de la richesse. C'est la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait les choses? Qu'est-ce qu'on produit? Même, enfin voilà, dans tous les sujets de société, je me dis peut-être avoir moins, mais les objets qui t'entourent, la matérialité qui va t'entourer, elle va être sensible, elle va être présente, elle va être consciente, elle va être riche en elle-même, quoi.
Et ça rejoint ce que tu disais un peu au début sur le fait que Deepak Chopra il disait quand on a quelque chose qui est de l'ordre de l'idée et de l'intention, après ça se matérialise.
Oui.
Donc du coup en termes d'objet lui-même ça se matérialise, mais dans cette intention il y a énormément d'autres informations. Si jamais tu es plus conscient des choses et que tu fais plus attention à la qualité des choses, l'intention que tu mets dans quelque chose qui est de qualité. Par exemple, si moi, au lieu d'acheter un t-shirt à H&M, on part sur un truc basique, où j'achète juste un t-shirt pour dire de ne pas payer cher, et après je vais porter ce t-shirt, déjà je vais pas le porter pareil, parce que je l'aurais juste acheté pour avoir un t-shirt, que si j'allais chez une fille comme j'ai rencontrée au dernier Creative Morning, qui elle récupère plein de chutes de tissus de qualité, et ensuite elle te fabrique tes affaires sur mesure. Donc au lieu de payer un t-shirt 10 balles ou 5 balles, sur Azos, c'est encore moins cher, c'est à 5 balles. Au lieu de payer, ou même à Uniqlo, c'est encore moins cher aussi, mais c'est pareil, tu sais pas du tout d'où ça vient. Et puis, t'as aucune intention en fait quand tu achètes quoi. T'y vas, 5 balles, le t-shirt il est propre. Ok, c'est bon, je le mets, ça va. Alors que oui, aller chez une personne qui va prendre tes mesures et puis qui va du coup réfléchir avec toi sur la coupe que tu veux. Et puis ensuite, elle va te donner ton t-shirt, mais il sera pas à 5 euros, il sera peut-être à 40 euros, peut-être même à 50 euros. Mais l'intention que la personne a mise quand elle a fait ce t-shirt, C'est lié aussi à ton intention à toi. Tu as fait la démarche d'aller là-bas. Donc en fait, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué avec tes mains, mais avec ton intention et avec ce que tu voulais, au final, tu as réussi à trouver cette personne et tu as été avec la personne pour qu'elle te fabrique ton t-shirt. Et à la fin, c'est ton intention qui s'est matérialisée. Et la qualité de l'intention est vraiment différente, quoi. Et du coup, ton t-shirt, ben, y a quelque chose qui est dedans. Ça a apporté aussi quelque chose à la personne qui l'a fabriqué parce qu'il y a eu une relation et s'est passé quelque chose aussi. Et ensuite, quand tu vas y porter tous les jours, c'est pareil. C'est différent, quoi.
Exactement.
Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi dans ce sens-là parce que moi, depuis un petit moment, je suis plus dans une démarche de me dire, bon ben voilà, j'achète quasiment plus et j'essaie d'être complètement en dehors du matérialisme. Mais au final, c'était une étape pour peut-être décharger un peu du côté matérialiste. Mais on reste des êtres physiques dans une société comme la nôtre. Et je pense qu'il y aura toujours besoin d'un minimum de matériel. Même quand je repartirai voyager, je partirai toujours avec un sac et il y aura des affaires dedans. Mais c'est vrai que chacune des affaires soit des affaires qui sont créées par une intention qui était qualitative. Ben oui, là, dans ce cas-là, si jamais il n'y avait que autour de nous des choses qui étaient créées dans des intentions qui sont comme ça, on serait dans un univers de luxe, mais pas de luxe parce qu'il y a de l'or et parce qu'il y a
mais le luxe,
des choses
c'est
qui
bien
brillent,
ça, moi,
des diamants,
quand même. Oui.
Mais du luxe parce que vraiment, c'est du luxe émotionnel ou du luxe de l'intention, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir sur la notion de luxe classique qu'on a. Le luxe par rapport au fait que c'est doré, il y a du diamant et des choses comme ça. Je me demande si en fait on trouve pas, enfin on n'a pas mis le mot luxe sur ces choses-là, parce que vu que ça coûte cher et que c'est fait avec des matériaux qui sont rares, et ben ça force l'intention. Ça force à ce que l'intention soit un peu plus qualitative que si c'était avec des choses qui des matériaux qui coûtent pas cher. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors après. Je connais des marques de luxe que moi je trouve vraiment remarquables, tu vois, rien que dans des designers italiens, des artisans qui bossent pour des marques de haute couture, des gens mais qui sont absolument remarquables, qui ont un savoir-faire, qui ont une précision, qui ont une présence pendant qu'ils créent l'objet. Et la force de ces marques, en fait, c'est d'avoir élevé le niveau de l'artisanat à une grande échelle. Après, tu as d'autres marques qui se construisent juste sur une image, mais tu sens que derrière, et cette image, en fait, c'est une image de l'ego, de dire je suis riche, je veux vendre un produit riche pour riche, et puis c'est tout. Bon, après, ça dépend de ta sensibilité, tu peux sentir ces deux différences, mais il y a des marques quand même qui vendent effectivement des produits chers parce que ce qu'elles font, bah, c'est des marques qui aussi osent explorer des méthodologies, des savoir-faire, d'exploitation de nouveaux matériaux, des procédés, etc. Donc oui, elles vendent des produits chers, mais ça, c'est le luxe que moi, je trouve magnifique et qui permettent après à d'autres industries, tu vois, d'émerger ou d'accéder à des technologies, etc. Donc ça, c'est... Mais il y a aussi le luxe dans tout ce qui ne coûte pas cher. Enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est le luxe. Moi, par exemple, bien manger, c'est un luxe que je m'offre. Mais je vais faire mon marché toutes les semaines. Et avec des artisans que je connais qui bossent à 40 minutes de Lyon, on est même allé chez eux pour, quand on a fait notre retraite de yoga, pour aller se fournir chez eux. On sait comment ils cultivent leurs fruits, leurs légumes. On sait que c'est bon. Et après, on cuisine. Et du coup, on fait de la cuisine thaï, on fait plein de salades différentes. Et je veux dire, des fois, je trouve qu'on mange mieux chez nous que dans certains restos, tu vois.
Ouais.
Ça me coûte moins cher que d'acheter tous mes plats pré-préparés dans des grandes surfaces. Et pourtant, je trouve que c'est un luxe. Tu vois ? Enfin, ça coûte moins cher, mais pour moi, c'est ça le luxe. Le luxe aussi, c'est... Ben, c'est ce que je te disais, c'était de se dire on peut construire pas mal de mobilier, on peut choisir des beaux matériaux. Enfin, quand tu as un intérieur, par exemple, où tu as des belles pièces de bois, où tu as des belles pierres, où tu as des choses comme ça, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Et pour moi, c'est beau, c'est aussi le luxe, pour moi, c'est aussi un peu le rituel. Et ça coûte pas d'argent, tu vois. C'est le rituel de ce matin, du matin par exemple, de se faire son thé avec un bon thé, avec du temps, avec un petit temps de méditation, avec et ça, c'est ce qu'on va te vendre dans un hôtel 5 étoiles.
Ouais.
Tu vois, ou dans un spa haut de gamme. Et en fait, de se dire que le luxe, c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est plutôt un état d'esprit.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Les hôtels 5 étoiles, à chaque fois, c'est un endroit où tu vas pour prendre du temps, où tu vas prendre soin de toi parce que tu vas aller te faire masser, où il y a des petites crèmes, il y a des petits machins et des trucs comme ça. Un lit où tu vas bien dormir et où tu vas vraiment être. Et où tu vas aussi être dans une condition où quand tu vas manger le repas, et ben du coup, tu vas être attentif à ce qui se passe.
Présent.
Voilà, ça. Et du coup, tu vas trouver que c'est luxueux parce que. En fait, on a plus tendance à accrocher dans notre tête de base le côté c'est luxueux dans l'hôtel 5 étoiles parce qu'il y avait un robinet qui était en argent, parce que la nourriture était faite par un grand chef étoilé, parce qu'il y avait une piscine à débordement sur une vue magnifique et toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, la deuxième couche du luxe, c'était tout ce temps relâché qu'il y avait et le comportement qu'on a dans le lieu,
Exactement.
plus que les éléments du lieu en eux-mêmes, quoi. Donc oui. On peut passer une journée entière dans sa routine habituelle, dans le luxe, si jamais je te rejoins complètement pour la routine du matin, par exemple, quoi.
Oui.
Moi, je sais que là, ça fait un moment que, du coup, le matin, c'est 2 heures.
Pour toi.
Je me laisse 2 heures, je me lève tranquillement, je fais une petite routine de yoga, un peu de méditation. Et puis, le simple fait de pouvoir me poser à la table du salon. Avoir fait mon café avant, tu vois, ça c'est tout bête, voilà. Alors pour la qualité, c'est exactement ça. Au Costa Rica, quand on y allait, du coup, j'ai regardé comment ils faisaient le café. Et oui, ils font du café dans une espèce de sorte de chaussette qui fait filtre. Et normalement, c'est posé sur un petit support en bois, et puis du coup, tu mets ton café dedans, et puis tu verses ton eau chaude tout doucement. Donc ça se fait à la main, quoi. Et tu pourrais discuter avec des gens qui sont puristes du café, ou sur la qualité du café, ou l'économie par rapport à la quantité de café, enfin tous ces trucs-là. Ils te diront que cette technique-là, c'est pas fou, quoi. Mais le fait de. Et j'ai même pas le support en bois, juste tenir ma chaussette à la main comme ça, de faire couler mon eau. En plus, mon machin, il déborde un peu de partout, tu vois, mais c'est pas grave. Et à la fin, du coup, j'ai fait la quantité pour faire 2 cafés. Et on se pose à la table. Et puis, on a du pain, du machin, enfin bref. Et on a vraiment une demi-heure, 3 quarts d'heure tous les deux pour déjeuner tranquillement tous les matins. Et on sert notre petit café que, du coup, j'ai fait moi avec mon truc. Et ben même si le café il n'était pas bon, et ben il est bon,
Oui,
tu vois,
bien sûr.
il est agréable et ça fait partie du moment. Et du coup ça c'était et ce moment-là assis à la table à déjeuner juste après avoir fait le yoga et pouvoir discuter tranquillement en se réveillant, ben ça c'est du luxe et c'est du luxe qui coûte quasiment rien. Et c'est vraiment vrai, ouais, c'est vrai, c'est vraiment du luxe ça.
C'est ce que on me demande de vendre en hôtellerie. C'est-à-dire, un hôtelier, il va me dire, crée-nous des marques d'attention. Crée-nous des marques d'attention pour nos clients. Donc, tu sais, ça va être toutes les petites choses qui vont être bien disposées pour que le client sache qu'on a pensé à lui, que tout est fait pour lui, etc. Mais ces marques d'attention, on peut les créer chez soi aussi.
Ouais, clairement.
Alors qu'on s'encombre, tu vois, de beaucoup de choses en général. Et moi, ces marques d'attention, c'est ce que j'essaie de transposer dans d'autres lieux aujourd'hui où on n'en a pas des marques d'attention parce qu'on considère que c'est des environnements fonctionnels comme les écoles, comme les maisons de retraite, comme les hôpitaux. Mais tous ces endroits-là, on devrait avoir encore plus de marques d'attention pour justement qu'on puisse. Tu sais, quand tu vas dans un hôtel 5 étoiles, tu as l'impression d'être un peu le roi du monde. Enfin, je ne sais pas si tout le monde aime
Oui.
aller dans un hôtel 5 étoiles, mais la vie te paraît simple, tu te sens propre, léger, tu te sens bien, quoi. Enfin, voilà. Et où tu peux avoir cette même sensation quand tu fais un camping, que tu n'as rien, que tu es avec ton sac de couchage, ta tente, tu es au sommet de la montagne, et là, tu vois le lever du soleil ou le coucher du soleil, et tu te dis, mais oh, la chance que j'ai, c'est incroyable. C'est la culture de l'instant, la culture de la beauté, je trouve, dans le moment présent. Et je trouvais très beau, tu vois, des rituels japonais, par exemple, je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé à
La cérémonie du thé.
la cérémonie du thé, cette œuvre d'art que c'est en soi. Enfin,
J'ai jamais
c'est.
jamais assisté à une cérémonie du thé et j'ai pas trop non plus pris de renseignements là-dessus pour le moment, mais il faudrait.
C'est très beau, c'est justement cette culture du geste, cette culture de la présence et de la précision. Et tu vois, quand on. Parce qu'en fait, avant le podcast, on discutait avec Fabrice du chaos. Mais là, c'est vraiment toute la sérénité par la posture, le calme, etc. Et même quand on est allé, je suis allée à l'exposition qu'il y avait au Palais de la Bourse sur les artisans d'Hermès la semaine dernière.
Ah oui, d'accord.
Et c'était ça, c'était la beauté du zeste, de la présence, du. Et bon, bah, c'est. Je trouve qu'à réintégrer aussi dans notre quotidien, par des petites choses, hein, on ne peut pas vivre que comme ça, on ne peut pas être une œuvre d'art toute la journée, parce qu'à la fin, on est déconnecté aussi de la vie, hein, de tout ça. Mais pour des petites choses, en fait, je trouve que ça donne des petits rituels qui sont beaux, de se dire bah, comment je consomme, est-ce que je prends 5 minutes de plus pour faire mon marché, pour avoir des vrais super bons trucs? Le mobilier, les fringues que j'achète, est-ce que j'en achète moins et c'est moins surchargé chez moi, mais est-ce que c'est de la meilleure qualité? Est-ce que le temps que j'ai, bah oui, des fois je regarde Netflix et oui, des fois en fait je prends 30 minutes pour faire mon yoga, tu vois, et je sais pas, en fait c'est tout cet équilibre-là, cette balance, parce que moi aussi hein, je consomme chez H&M, enfin mes paires de chaussettes, tu vois, parce que je trouve qu'elles sont bien, ou des t-shirts ou des trucs comme ça, mais c'est cet équilibre que je trouve. Ça donne vachement de richesse à ta vie aussi. Enfin, tu vois, quand notre sujet de départ, c'était la richesse, de se dire, bah, ma vie, je la trouve aussi riche dans cet état d'esprit de se dire, je vis dans le luxe, mais un luxe qui ne coûte pas forcément cher. Voilà.
Exactement. Ouais. Et pour juste rebondir sur ce que tu disais pour les marques d'attention, je trouvais ça intéressant. Ça me fait tellement penser à. Je trouve qu'il y a une pauvreté justement de la marque d'attention au quotidien. Parce que même quand des gens vont par exemple à un événement et qu'il y a des goodies, comme on
Oui.
appelle ça, tu vois, on va te donner un porte-clés, on va te donner un tour de cou, on va te donner un sticker. Et ben la plupart du temps, ça marche. Les gens sont quand même contents d'avoir cette espèce d'objet, de se dire ah,
On a fait attention à moi.
Ouais, c'est ça. C'est un cadeau, tu vois. Le cadeau, c'est pareil au final. Le cadeau, c'est une marque d'attention à un moment donné important de la vie de la personne, mais qui se matérialise par quelque chose de matériel.
Ouais.
Et du coup, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, peut-être que ça vient de là, au final, aussi le problème qu'on a actuellement à lier le matériel au luxe. Enfin, comment dire? Si, depuis que tu es tout petit, à chaque fois qu'il y a un moment qu'on te dit qui est important de ta vie, c'est-à-dire ton anniversaire ou Noël, la marque d'attention que tu n'as pas forcément raison l'année, parce qu'en plus on te dit que ça ne va pas arriver tout le temps, ça arrive que pour ton anniversaire, c'est là où tu as un cadeau et c'est là où tu as quelque chose de matériel. Du coup, dans ta tête, forcément, une marque d'attention, c'est quelque chose de matériel. Et t'attends toute l'année, quand t'es petit, qu'il y ait ton anniversaire qui arrive, pour que tu puisses avoir ton cadeau. Et je me demande si après, en grandissant, on n'oublie pas la notion de marque d'attention et qu'on ne l'a pas remplacée dans notre tête par le matériel et le cadeau. Donc du coup, eh ben, quand on veut donner une marque d'attention à quelqu'un ou lui faire plaisir, on va lui acheter quelque chose de matériel. Et quand soi-même on va mal, ou qu'on a besoin de combler un manque, ou quelque chose, ou qu'on veut se faire plaisir, on va s'acheter quelque chose aussi. Parce que ça a été ancré comme ça depuis qu'on est tout petit, que si jamais eh ben, tu as besoin d'une marque d'attention, ou de donner une marque d'attention, dans ce cas-là, tu fais un cadeau matériel. Mais on pourrait fonctionner complètement différemment. Dans cette notion de luxe, comme tu disais, qui est beaucoup plus légère, une marque d'attention, ça peut juste être. Je sais pas, faire la surprise à quelqu'un pour son anniversaire, de juste aller passer la journée entière avec, en ayant bloqué la sienne, et puis d'être super attentif à tout ce qu'elle raconte, ou juste de lui demander ben, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse, et puis peut-être aller juste faire du vélo, enfin bref, des trucs simples quoi.
Partager
Mais
du bon
ouais,
temps.
voilà, c'est ça, c'est vrai.
Un temps de qualité, ça c'est vrai. Pour moi, Noël, c'est un vrai challenge, tu vois.
Ouais.
Parce que je ne suis pas encore sortie de cette problématique, mais Noël, ça devient presque un problème pour moi de stress, de me dire tous ces cadeaux que j'ai à faire et de les faire par devoir, alors que. Parce que j'ai pas encore vraiment abordé le sujet, je pense, avec les gens que j'aime, ma famille, etc. Mais j'ai la sensation qu'on pourrait peut-être faire les choses plus simplement. Mais tu vois, des fois, c'est difficile de dire à quelqu'un, parce que aussi, quand je vois un bel objet, je me dis, ah, mais ce serait génial, ça va vraiment lui faire plaisir, ça. Bah, tu sais, tu as vraiment envie de l'acheter, ou quand tu achètes un cadeau pour ta copine et tout, tu es hyper content de l'avoir
Ouais.
acheté. Donc voilà. Et puis l'autre, tu n'as pas eu d'idée, c'est pas venu, donc tu lui achètes rien. C'est dur aussi, tu vois, de se dire, ou alors, faut faire les choses différemment. Mais j'aimerais vraiment, je pense, Noël, tu vas me dire, c'est vrai que c'est un. Faire les choses plus simplement et de revenir à un truc où on se voit vraiment, prendre du plaisir à se voir, ou alors s'offrir, je ne sais pas, un séjour tous ensemble quelque part où on est content de se retrouver, plutôt que tous ces objets, des fois, qui nous font quand même plaisir, mais qui, toutes les 3 semaines qui précèdent Noël, c'est vraiment la corvée, quoi, d'aller acheter tous ces cadeaux. Donc,
Oui, puis en plus de ça, encore une fois, si au départ la marque d'attention c'était d'offrir un cadeau, et que maintenant en fait il n'y a même plus la marque d'attention, il n'y a plus l'intention quand tu fais le cadeau, parce que du coup c'est obligé de faire cadeau à ce moment-là, bah, c'est un cadeau qui est, c'est un objet qui est vide quoi. Alors du coup ça faut, il faut que ce soit un objet qui coûte cher. Parce que comme ça force l'intention, tu vois. Si
exactement.
jamais tu as acheté quelque chose de cher, ça veut dire que tu avais quand même vraiment envie de faire l'effort de acheter quelque chose de cher. Donc, tu vois, c'est marrant, c'est comme si ça forçait une intention. Donc du coup, le cadeau forcément est mieux parce qu'il y a de l'intention. Mais ça s'est fait par le fait que ça coûtait cher. Alors du coup, c'est... Ouais. ça pourrait être un bout de bois que ça pourrait bien fonctionner s'il y avait une vraie intention qui était dedans.
Mais tu sais que Noël dernier, j'ai demandé à mon frère qui est géologue de m'offrir des cailloux. Parce que j'ai une passion pour les cailloux. Et du coup, je lui ai dit, moi, je voudrais des pierres pour. Et en plus, il s'appelle Pierre, ça, c'est très drôle.
D'accord.
Et.
Pierre géologue.
Oui, exactement.
Fantastique.
Alors lui, il ne voit pas du tout le rapport, mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais oui, voilà, je lui ai demandé de m'offrir des cailloux. Il m'a offert des pierres assez magnifiques. Mais voilà, et pour moi, c'était le plus beau cadeau du monde, tu vois, qu'il pouvait me faire. Voilà.
Pas mal, les cailloux. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'avais un autre sujet de curiosité?
L'autre sujet de curiosité, c'était un petit peu la redéfinition de mon métier que j'étais en train de faire en ce moment. De parler, quand je me présente et quand je dis que je suis architecte d'intérieur, tu vois, ce qui est drôle, c'est que les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire de l'architecture intérieure Instagram.
Ouais.
C'est-à-dire que le but de mon projet, c'est qu'à la fin, on puisse prendre une belle photo du lieu, la mettre sur
Au
Instagram
Pinterest.
et après, ça soit. Voilà. Et donc, effectivement, donc on vient d'en parler, j'aime les beaux objets, j'aime les beaux intérieurs, j'accorde beaucoup d'importance, je suis très sensible à ça. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça ne marche pas pour plein de lieux. Ça marche pour faire de la pub, pour les objets, pour les lieux, comme on a dit un peu, qui marchent sur l'image. Mais pour la majorité des lieux qu'on occupe, ça ne marche pas. Et je me posais la question de notre société, cette autorisation qu'on avait à changer les choses. Et que je trouve qu'on est dans un système où quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, comment c'est compliqué pour le changer?
Ouais.
Et si je devais donner un exemple très concret, c'est de me rendre compte que les maisons de retraite dans lesquelles on est, c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec toi, ne fonctionnent pas. Si je pose la question, je pose tout le temps la question, est-ce que vous avez envie d'aller dans une maison de
Je
retraite?
pense
Mais
que tout le monde sera d'accord sur la réponse,
tout
non?
le monde me dit non. Et ça fait des dizaines d'années qu'on construit toujours les mêmes choses. Je trouve ça fou que parce qu'on est dans un système et parce que c'est une espèce de loi, les lois qu'on a dans notre société, les lois tacites, hein, je ne parle pas du code pénal ou des choses comme ça, mais des lois tacites qu'on a de notre mode de fonctionnement, de notre organisation, on a tellement l'impression que c'est là et que ça devrait continuer qu'on continue de le faire, même si c'est un total non-sens. Bon, il y a plein d'autres choses qui sont un non-sens dans notre société, mais la construction, c'est quand même quelque chose de facile à changer. Il n'y a qu'à, dès le début, faire un autre plan et puis faire un autre bâtiment. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça à faire dans la réalité. Du coup, je me pose la question vraiment du sens qu'on donne dans nos bâtiments et qu'est-ce que ça prédestine dans notre façon de nous organiser. Et me dire, bah, demain, si on construisait une maison de retraite qui soit vraiment cool, quoi. Que, bon, bah, t'as fait ton taf, quoi. tu as vécu ta vie, tu as fait tes enfants, ta famille, ou je sais pas, tu as fait ta vie d'aventurier, j'en sais rien. Et puis là, tu es fatigué, tu es au bout du rouleau, tu vas bientôt mourir. Et bah, tu as besoin d'un endroit où tu puisses être tranquille pour faire ça, quoi, pour faire la fin de ta vie.
Peut-être le droit à ton hôtel 5 étoiles
Tu as peut-être le
en
droit à
mode
ton
luxe
méga
à la
hôtel, quoi.
fin. Ouais, c'est ça.
Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis allée interroger les gens qui étaient dans les maisons de retraite, eh ben, eux, en fait, ce qu'ils avaient envie, c'était d'avoir de la vie. Ils étaient bien conscients qu'ils allaient bientôt mourir, mais ils n'avaient pas envie qu'on le leur rappelle tous les jours. Et pourtant, ils me disaient, si tu savais, on s'ennuie à mourir.
D'accord.
Et vraiment, on s'ennuie à mourir, quoi. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était de l'intergénérationnalité, c'était des animaux, c'était des plantes, c'était des activités. Enfin, c'était de la vie, quoi.
Ouais, ça, c'est la vie.
Et c'est pas, et pour eux, c'était ça le luxe. Enfin, si tu veux, l'instant précieux de la vie, c'était ça. Donc voilà, en ce moment, je me pose un peu des questions sur la dimension qu'on donne à notre intérieur et au-delà du sens. Donc ça, c'est le premier, la première chose, c'est de se dire aussi, j'ai la sensation qu'un lieu, il interagit avec des gens et qu'aujourd'hui, on a tendance à enlever le lieu des personnes, enfin, comment dire, à séparer le lieu des gens. On considère que le lieu est un espèce d'objet, que les gens qui viennent dedans n'ont rien à voir avec cet espace, mais qu'en fait, ce qui va se créer dans cet espace, c'est bien l'interaction des deux. C'est l'un va pas sans l'autre, quoi. Et le lieu sans les gens, bah, pff, quel intérêt, en fait.
Oui, avec un intérêt.
Voilà, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'un lieu, on le considère comme un objet ou comme c'est la relation qu'il a avec les gens? Et je trouve que là, ça change tout, parce que ça crée des espaces vivants. Ça crée des espaces qui vont répondre aux gens, ça va créer des espaces qui sont évolutifs, ça va créer des espaces où on introduit de la matière vivante. Voilà, donc toute cette architecture Instagram, cette architecture de consommation courante, en ce moment, je me dis qu'il faudrait un nouveau métier qui soit vraiment sur recréer du lien entre les espaces et les gens. Tu sais, en ce moment, tu as plein de coachs, tu as plein de gens
Ouais.
qui créent du lien entre les gens et les gens.
Ou entre les gens et eux-mêmes.
Et les gens eux-mêmes. Et voilà, moi je suis en train de me dire, créer l'espace, enfin, du lien entre les gens et leur lieu, même leur habitation, tu vois, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils sont chez eux, comment est-ce qu'ils le vivent, est-ce que c'est pratique? Au niveau énergétique aussi, est-ce que ça se passe bien? Enfin, quel est leur environnement, autour de quoi ils vivent? Est-ce que ça se passe bien avec leurs voisins? Comment ça se passe dans leur vie perso? C'est quoi leur projet? Qu'est-ce qu'ils ont envie de construire dans ce lieu? Et ça, c'est compliqué pour moi, parce que je pense que c'est pas compliqué en soi,
Ouais.
mais pour moi, c'est l'étape en fait que j'ai envie de franchir dans la conception architecturale d'aujourd'hui, c'est de se dire il y a un cap à passer entre les espaces qu'on crée tous azimuts, cette urbanisation, ces constructions, et puis les gens qui vont être dedans, quoi. Enfin, tu vois, c'est.
Oh, puis tu as un lien avec ce que tu disais au départ aussi par rapport à ces objets qu'on entasse chez nous et qu'on n'a plus conscience.
Eh
C'est
ben oui.
que forcément, si on n'est plus connecté vraiment avec le lieu, ou qu'on est connecté qu'avec des petites zones du lieu, il va y avoir d'autres zones qui vont être des zones de non-lieu, où on va plus aller, où on va plus avoir de rapport avec ça, et du coup les objets, on va les oublier. Et même pour des interactions avec le lieu qui pourraient être intéressantes, par exemple, à la maison, on a un piano. Alors, on a toujours un piano. Et en fait, au tout début, quand on arrive dans l'appart, vu que c'était à côté de la fenêtre, on s'est dit, c'est là qu'il faut mettre les plantes. Donc on s'est servi du piano pour mettre les plantes dessus.
C'est super.
Et du coup, voilà, c'est super. Esthétiquement, c'est joli, tu vois. Piano, petite plante, machin, c'est très bien. Et puis au final, un an plus tard, tu te rends compte que tu avais peut-être eu l'intention au début de dire, ah bah tiens, maintenant que j'ai un piano, parce que moi j'avais pas de piano avant, maintenant que j'ai un piano, je vais pouvoir m'amuser, je sais pas, deux, trois fois par semaine à essayer de jouer du piano, et puis on verra bien si ça me fait progresser, quoi. Puis là, on a mis les plantes dessus, et du coup, bah, ça fait un an, j'ai pas touché le piano.
Oui.
Parce qu'on va jamais enlever les plantes tous les jours pour jouer du piano et puis après remettre les plantes et puis faire ça continuellement.
Mais t'as vu comme le piano devient une loi. Le piano est là, tu t'habitues au fait qu'il soit là, Et du coup, ton esprit ne se pose pas la question tous les jours de se dire c'est bizarre que le piano soit là alors que je m'en sers pas.
Ouais. Et du coup, c'était même plus un piano, c'était devenu un support à plantes.
Comme beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui et beaucoup de choses qu'on a dans notre appartement, des fois, ce serait intéressant de déménager sans changer d'adresse. Tu sais, de tout enlever
Ouais.
et de remettre simplement ce qui te... Et c'est ce que je dis parce que, bon, en ce moment, j'ai quand même beaucoup de mes amis qui achètent, tu vois, des apparts et qui me disent, on aimerait bien que tu viennes voir chez moi. Et du coup, quand j'y vais, ils me demandent, t'en penses quoi? Et je dis, bah, racontez-moi d'abord votre vie, en fait. Je vois le potentiel du lieu, je vois comment il est fait, mais j'ai envie de savoir comment vous vivez, etc. Et ce que je trouve génial dans mon métier, c'est qu'en fonction des gens que j'ai en face de moi, de leur centre d'intérêt, de leurs aspirations, etc., il y a vraiment tout le projet va changer. Ça ne peut pas être un projet standard, quoi. Et peu de gens, en fait, se rendent compte de la richesse de ce métier-là, parce que peut-être parce qu'on ne le communique pas assez aussi. Et quand j'ai un couple d'amis, là, quand je leur ai proposé mon projet, ils m'ont dit, mais on s'attendait pas du tout à ça. Et on se rend compte qu'avec cette proposition-là, on peut tout faire. Alors qu'avant, ils avaient décidé d'arrêter de faire une partie. En fait, comme ils accueillaient beaucoup de gens chez eux, la partie pour eux, réception, grande table à manger, tu vois, était hyper importante. Et du coup, ils s'étaient dit, on n'a pas la place de faire un salon avec le rétroprojecteur, etc. Donc, on va arrêter de regarder des films. Et moi, je
D'accord.
me suis dit,
Ah donc ils sont contraints
ils se
sur
sont.
leurs envies d'activité.
Mais tout le monde fait ça.
Bah, oui, mais je suis d'accord
Tu
avec toi. Bah,
te
comme oui,
dis, en fait,
comme pour
moi,
le
je dis,
piano.
mais si vous voulez qu'on le fasse, on va le faire. Il faut réfléchir, évidemment, ça ne se fait pas comme ça, et puis il faut que ce soit fonctionnel, etc. Mais les gens ont tendance à se dire, je me mets au service des objets, et ce n'est plus les objets qui sont à mon service.
Ouais.
Et pour nous, c'est normal de vivre comme ça aujourd'hui. Et on va aller dans une maison de retraite. Alors, pour regarder un film, on va me dire, bon, bah oui, moi aussi, et puis c'est pas grave. Mais il faut bien se dire quand même qu'il y a des endroits aujourd'hui où on vit vraiment comme ça, au service du bâtiment. Et moi, je me suis dit, bah, quelle liberté aussi on a. Parce que à force d'être dans des moules comme ça, on prend la forme de nos moules.
Ouais,
Tu
bien
vois?
sûr, je vois complètement. Ouais.
Et là, du coup, de se dire, ouais, mais en fait, les moules, ils sont un peu serrés, quoi. Là, on n'a pas la place dont on a besoin, on n'a pas les fonctions dont on a besoin. Donc, se dire, on sert et on se donne de la latitude de réfléchir à ce qu'on veut, comment on crée des espaces qui soient sympas. Pour les maisons de retraite, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas midi à 14h à chercher parce que finalement, quand j'en ai discuté avec un directeur de maison de retraite et qui m'a laissé un peu carte blanche, il y avait une école primaire qui était la rue en face, mais qui avait une toute petite cour de récréation, alors que le parc de la maison de retraite était un
Immense.
parc arboré, joli, etc. Donc on a fait des séances de cours de récréation et d'activités sportives dans le parc arboré. Bon, alors mon intervention en tant qu'architecte d'intérieur a été égale à zéro. Après, ils m'ont demandé de mettre des chatières sur les portes pour que les chats puissent rentrer dans la maison de retraite. Leurs chats, en fait, qu'ils avaient nourris dans leur ancien établissement. Donc, on a mis des chatières. Donc, pareil, là, mon geste architectural a été. C'était pas la plus grande création de ma vie. Et la troisième chose, c'est qu'ils étaient un peu. Ils aimaient pas ce qu'ils mangeaient le midi. Donc, on a fait une cuisine adaptée pour qu'ils donnent une fois par semaine une leçon de cuisine au cuistot de la maison de retraite. On a refait un coup de déco, un coup de peinture, etc. Mais ça s'est arrêté là pour, on va dire, l'intervention architecturale. Mais par contre, la vie de la maison de retraite a considérablement changé. Bon,
Bah, t'as fait du
c'est
oui, t'as redesigné la maison de retraite, quoi.
sur des petites choses.
Ouais.
Et des fois, ça ne demandait pas grand-chose en termes d'argent. C'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont été riches de nouvelles expériences? Donc voilà, donc c'est pas évident de dire aux gens que je suis architecte d'intérieur et que des fois leurs lieux vont pas considérablement changer sur l'image. Par contre, que dans leur quotidien ou dans leur vie ou dans leur posture, ça peut tout changer en fait.
Oui, parce que c'est la limitation. Bah, tiens, j'ai deux analogies par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est les objets qui nous enferment et on finit par être dans des moules. J'en parlais hier soir, mais c'est aussi le langage, par exemple.
Ouais.
On pose des mots sur des concepts qui sont censés nous servir pour arriver à communiquer. Et on peut aussi très rapidement se retrouver enfermé dedans. Par exemple, moi, je suis designer, donc en utilisant ce mot, parce que je n'ai pas encore trouvé d'autres mots, mais qui ne sont pas forcément conceptualisées de la même manière pour tout le monde. Et ben, dès le moment où je dis à quelqu'un je suis designer, si par exemple je me présentais comme ça, hein, j'essaie de plus le faire, mais justement, parce que si je me présente comme ça, les gens, directement, je suis
Dans
dans un
ta
moule.
case.
Voilà. Alors que c'est pas du design que je fais par rapport à leur point de vue, je fais plein d'autres choses. Et je me dis que toi, peut-être, c'est pareil, quand tu te présentes en tant qu'architecte d'intérieur, les gens, en fait, ils sont déjà en train de s'imaginer l'Instagram
Ce qui est bien
ou le
normal.
Pinterest. Ce qui est bien normal parce que voilà, le moule de ces deux mots, c'est
C'est ça.
ça, actuellement. Après, ça évolue tout le temps, mais c'est ça. Et donc, du coup, il faut arriver à s'inventer des nouveaux mots pour pouvoir se libérer des concepts limitants qu'on a du langage.
Et oui.
Limite, peut-être qu'il faut arriver à se créer du vocabulaire, en fait, pour
Et
arriver à se libérer de ça.
pourtant, j'aimerais tellement continuer à utiliser architecte d'intérieur. Tu vois?
Ouais, mais parce que
Parce
toi, tu as ouvert le champ du concept dans ta tête sur ces termes.
Et oui, mais j'aimerais tellement. Ça, c'est bah, pareil, Olivier Zara, qui est un conférencier qui parle sur la complexité en entreprise, expliquait sa posture du sachet de thé. Et lui, il disait. Moi, en fait, quand je veux transmettre une idée, je fais le sachet de thé, j'infuse. Et c'est en prenant cette posture que finalement le concept change autour de moi et que les gens, voyant que je peux faire les choses différemment, mais que je suis toujours moi, bah, se disent, bah, tiens, on peut faire différemment. Des fois, c'est ce que j'aimerais, parce que je ne sais pas quoi, comment inventer, je ne sais même pas quel mot donner, si tu veux, à cette posture-là. Ce que je sais, c'est que j'adore travailler sur l'architecture intérieure d'un lieu, sur tout ce qui compose l'architecture intérieure, que ce soit la couleur, la lumière, les objets, etc. L'architecture intérieure classique, mais lui ajouter cette dimension. Parce que des fois, je vais chez des gens qui ont des très beaux objets, des très beaux revêtements, et j'ai envie de leur dire, vous n'avez pas besoin de changer votre sol, par exemple, qui est déjà un sol en pierre magnifique. Je leur dis, par contre, c'est quoi votre réel besoin? C'est du renouveau, c'est que vous avez, c'est pas fonctionnel, c'est etc. Et en allant dans le sens, je me rends compte que l'image du lieu va pas totalement changer, mais ce sur quoi on va le changer, ça va être pertinent. Bon, et ça, c'est pas vrai encore partout dans notre conception du bâtiment. Et c'est voilà, mais c'est vrai que explorer son métier, je trouve que c'est un beau métier. Enfin, c'est un métier dans le métier,
Ouais, je vois
être
ce que tu veux dire.
explorateur de son métier.
Oui, puis après, du coup, c'est toi qui participes aussi à arriver à remettre un concept plus large et plus complexe, mais plus riche sur le nom de ton métier.
Exactement.
Et c'est vrai que je fais la même chose pour le design. Je garde mon titre de designer, mais ça a tellement rien à voir avec le concept de base qu'il peut y avoir, que du coup, tu as besoin de l'expliquer et tu as besoin de. Même pas de l'expliquer, tu as besoin juste d'essayer de pouvoir l'exprimer. Comme ça, au moins, tu le vis et du coup, tu te retrouves à faire le sachet de thé aussi, à infuser. Et ils se disent, ah d'accord, en fait, il est designer et puis du coup, il se retrouve
S'autorise à faire ça.
à faire ça, ça et ça. Ah d'accord, ok. Ah donc, du coup, on peut être designer et faire ça. Ah
Tu
d'accord.
transgresses une loi tacite en
Ah
fait,
ouais, bien sûr, c'est
et
ça.
en fait on se donne de la liberté, quoi.
C'est ça. Et le deuxième rebond que j'avais sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on est moulé par nos objets et que là, du coup, je trouve que c'est assez perturbant. C'est qu'on se comporte avec le numérique, par exemple, et nos objets numériques, de la même manière qu'avec nos objets réels. Et en fait, on se fait mouler aussi par les objets numériques. Et le champ des possibles est contraint par ces outils-là, qui normalement sont censés être, comme les objets dans la vie réelle, des choses qui sont des extensions à nous-mêmes et qui nous permettent d'être plus libres. Si on y prend dans ce sens-là, mais sur le numérique, c'est pareil. On se retrouve à utiliser quelque chose pour être plus libre, mais au final, on se retrouve à se créer des autres règles qui enferment, quoi. Et du coup, c'est super perturbant de dire ça, quoi.
Moi,
Et
j'ai
plus.
l'impression qu'on est comme des enfants, on a accès à tout. Et tu sais, l'ère du numérique, j'ai l'impression qu'on est en train de la vivre. Enfin, la révolution numérique, du coup, on se rend compte de tout ce que ça implique, mais on n'a pas encore dégagé de. Enfin, si, on dégage quelques postures, mais on explore, donc autant on va dans un extrême, dans l'autre, jusqu'à se dire, ça reste un outil. Et cet outil, comment il peut me servir dans ma vie, mais ma vie, c'est pas ça. Comme la consommation,
Bah
comme
oui, non, il faut avoir un
tout ça.
décrochage parce que sinon, oui, si c'est un outil que tu utilises 7 heures par jour, qui du coup est un outil intellectuel, si tu commences à te limiter par rapport à ça, du coup, tu te retrouves à te limiter énormément de choses. C'est ça qui est assez fou, quoi.
Bah, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas pris d'ordinateur. J'avais le risque, en fait, que tu me dises finalement qu'on. Parce que je suis arrivée plus tôt à la séance de podcast et j'ai pris Fabrice un peu au dépourvu tout à l'heure. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, si je dois attendre 2 heures, j'ai amené un livre, j'ai amené mon carnet pour noter mes idées. Je me suis dit, aujourd'hui, je fais sans ordi. Et c'est rare que je me dise ça. Pour checker mes mails, pour faire mes projets, pour faire les choses comme ça. Et aujourd'hui, je me suis laissée. Et ça me laisse aussi de la liberté, tu sais, un peu ce qu'on disait. Ce chemin vers le rien, vers le vide, vers le ah ben non, j'ai pas un truc à remplir, j'ai pas mon ordi ou j'ai pas mon téléphone, tu sais, pour aller voir tous mes comptes, etc. Et en fait, je peux être assise et avoir rien, pas un bouquin, pas. Et ce vide, je trouve qu'il est hyper précieux, hyper riche, hyper créatif, hyper. Mais qu'on n'a plus l'habitude, quoi.
Ah oui, bah oui, parce qu'on est tout le temps. Ça rejoint ce que tu dis, je pense. On est tout le temps dans des moules. Par les objets numériques, par le langage, par en fait, par tout ce qui est matérialisé. Et du coup, si tu te mets dans le rien, alors c'est peut-être le seul espace dans lequel il peut se passer de la liberté, quoi. C'est intéressant.
C'est génial.
C'est génial. Faut rien faire. Voilà.
Exactement.
Ça sera la note principale du podcast. Voilà. N'écoutez pas le podcast, faites rien plutôt.
C'est la simplicité, je pense. Les choses simples, en fait.
C'est comme quand tu disais, j'ai pas pris mon ordinateur et du coup j'ai juste pris un carnet. Mais c'est pour ça que c'est aussi tellement puissant. Moi je le vois en design, mais on le voit dans quasiment tous les métiers. Le fait d'avoir juste une feuille blanche avec un crayon. Ben, y a aucune contrainte autre que le fait qu'on soit sur une dimension qui est plane, quoi. On ne peut pas faire en 3D, mais on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et c'est assez puissant, je trouve.
Exactement. Et tu sais, dans mon métier d'architecte d'intérieur, j'ai exploré pas mal de branches. Et quand je m'identifiais suffisamment à une branche, je me disais, ah bah je suis. Par exemple, quand j'ai exploré la géobiologie, j'ai fini par dire, bah je suis géobiologue. Et à force de m'intéresser à plein d'autres champs différents, je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas à mettre une étiquette, c'est plutôt une sensibilité par rapport à un lieu et elle te définit en. C'est ce qui donne la couleur à ton métier. Et je trouve ça chouette, en fait, de pouvoir aussi parler simplement aux gens. Alors, c'est vrai que ça surprend, mais quand je rencontrais un chef d'entreprise, là, qui bosse pour en plus une boîte de BTP, qui veut refaire ses locaux, et je lui explique et je lui dis, bah, moi, j'aimerais bien parler à tes salariés pour voir ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. Et il me dit, mais pourquoi faire? Et je lui dis, bah, c'est quand même eux qui vont vivre là-dedans, tu
J'ai le même
vois.
genre de questions pour pour des problèmes d'organisation. Donc, du coup, c'est pareil.
Oui, bah voilà.
Ouais.
Et cette incertitude, en fait, tu sais, de plus se mettre dans des cases, l'incertitude, c'est un truc qui est hyper dur à gérer dans notre société, dans des schémas économiques et
Mais c'est comme la
dans.
page blanche, du coup.
Voilà. Parce que tu sais pas,
Ou le rien, comme tu disais.
le rien. Et cette notion d'incertitude, moi, j'ai envie de dire. Chouette à l'incertitude. Il faut avoir une posture en face de cadrer les choses. Donc, il faut connaître tes limites, il faut connaître ton contexte, connaître tes acteurs, etc. Parce que sinon, l'incertitude pour l'incertitude, bah, ça donne le chaos. Enfin, ça donne la créativité au sens pur, mais à l'inscrire dans la réalité, c'est compliqué. Mais l'incertitude, poser des questions aux gens, les écouter, et après, peut-être leur dire ça, c'est pas possible ou ça, c'est possible. Mais c'est génial, c'est hyper rafraîchissant et les gens se sentent considérés. Et du coup, tu ouvres la porte à tout, quoi. Pas seulement une case en disant bah, moi je vais vous amener de la high-tech ou je vais vous amener des jolies couleurs ou de l'œuvre d'art ou des beaux mobiliers. En fait, de quoi vous avez besoin? Si les gens ne savent pas et qu'ils ont du mal à définir les besoins, il faut être capable de les accompagner pour qu'ils puissent l'exprimer. Puis s'ils ont besoin de rien, quoi, pourquoi est-ce qu'on refait les choses?
Bah
Enfin,
oui,
c'est
bien sûr.
ça, c'est ça aussi
Et
que je
puis on
me
en
pose
revient
comme
à
question.
le fait de poser la question à quelqu'un s'il a besoin de quelque chose. On en revient à essayer de toucher à retoucher à son intention aussi, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce que lui mettrait comme intention si jamais il pouvait tout faire? Changer son organisation, changer son espace ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ben, s'il arrive à te le communiquer, que toi tu arrives à sentir que du coup c'est vraiment son intention, ben, tu peux l'aider à lui matérialiser ça. Et du coup, tu matérialises quelque chose qui a vraiment une raison d'être, quoi.
Tu sais quand même qu'il y a des gens qui sont tellement moulés par leur lieu, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement soumis à leur lieu qu'en fait ils ne le voient pas. Et quand je vais dans des entreprises, il y en a qui me disent, bah je sais pas. Et je leur dis, est-ce que ça vous convient? Enfin, tu vois, toute cette... C'est comme si tu leur apprenais aussi à regarder ce qui les entoure, où ils sont, mettre de la conscience. Ah oui, tiens là, en fait, il y a un clou, c'est pour mettre un tableau. Et en fait, le clou, il est sur le mur depuis le début. Et ce que ça... Ben, en fait, je le voyais pas. Et soit c'est très bien, c'est parce que c'est des gens pour qui, dans leur chaîne de valeur, c'est pas si important que ça, peut-être, tu vois. Mais quand tu les entends après dans leur process, etc., c'est des gens qui sont... Il y en a qui peuvent être aussi... qui peuvent subir ça et de dire, bah, est-ce que qu'ils voient rien, par exemple, sur leur plan de travail, ils ont des lunettes, ils ont mal aux yeux, mal à la tête, mal au dos, parce qu'ils sont tout comme ça. Elle a dit, mais si on te mettait un bon éclairage, ah, on peut faire ça. Bah oui, on peut. Et tu sais, c'est de s'ouvrir aussi le champ des possibles et d'aider les gens à ouvrir le champ des possibles par rapport à ce qui les entoure et à leur redonner à ce qui s'écoute, quoi, à ce qui se dit, en fait, ça, je peux le faire. Tu vois, ça, c'est...
Je trouve que c'est super dur, ça, quand même, psychologiquement parlant. Enfin, ça demande un effort, mine de rien. Quand tu as
Ça demande
commencé à
du temps, je
rentrer
trouve aussi.
dans un moule de quelque chose, quand tu parles de la lumière, par exemple, moi je pense à chez moi, et on a une petite lampe qui est là depuis un an aussi, et elle est cool, tu vois. Elle fait la petite lumière bien du soir, mais ça fait depuis le début que je me dis que j'ai envie d'avoir plusieurs points de lumière pour qu'il y ait un peu plus de, tu vois, un peu plus de vie dans l'appart. Et en fait, je me suis moulé au fait qu'il n'y en avait qu'une. Et du coup, maintenant, ça me va. Et je cherche plus à en mettre d'autres, quoi.
Bah, c'est OK.
Mais il faut arriver. Non, mais oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est ça le truc qui est OK. C'est que, en fait, l'être humain s'adapte très vite. Donc, du coup, après, il se dit, bon, bah, je prends ça comme contrainte et j'y reste. Mais après, des fois, il faut arriver à se faire des moments de recul, à se dire, ah, mais en fait, bah non, je peux faire autrement. Et du coup, est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je fais autrement? Mais du coup, c'est se recréer régulièrement ce champ des possibles, quoi. Sinon,
Oui.
tu restes toujours juste avec ta petite lumière.
Et bah ouais, je pense que c'est un super exemple, ta petite lumière, parce que autant c'est une petite lumière, tu vois, mais autant, voilà, on en vient à créer des maisons de retraite qui sont comme elles sont aujourd'hui, tu vois, parce
Ouais.
qu'on est dans cette démarche-là. Et moi, je me dis, non, les lieux, ils peuvent être super chouettes, ils peuvent être beaux, ils peuvent être fonctionnels, ils peuvent être source d'épanouissement, tu vois. Construire une maison de retraite comme on construirait un hôtel 5 étoiles, comme on construirait un parc d'un musée d'art contemporain, comme on construirait des lieux de rencontre pour des jeunes start-up, comme on construirait. Enfin, tu vois, mais il faut sortir un peu de ces moules parce que je pense qu'à 90 ans, on a les mêmes désirs qu'à 20 ans, c'est-à-dire avoir des copains, avoir de l'amour autour de soi, avoir une vie confortable. Enfin, tu vois, enfin, on n'a pas les mêmes aspirations évidemment qu'à 20 ans, mais les besoins fondamentaux, c'est un peu les mêmes, quoi. Enfin, c'est les besoins fondamentaux de tout être humain. Tout comme dans, et je dis les maisons de retraite, mais ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, on fait de l'architecture pour les 30-60 ans. Mais quand on construit une école maternelle, il faudrait aller voir les enfants et leur dire bonjour, comment tu vas, comment tu as envie d'apprendre, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien quand tu apprends. Et cette responsabilisation, je trouve, cette autonomie, c'est ce qui fait que les enfants, comme les personnes âgées, auraient vraiment leur place dans la société, tu vois. Parce qu'un enfant, il sait très bien.
Ah oui, bien sûr.
Et ce qui fait qu'il reste enfant et peut-être un enfant pourri gâté, tu vois, c'est que tu lui parles pas comme ça. Mais un enfant, ça a plein de réponses. Moi, les enfants, quand je leur ai posé la question, ils m'ont parlé de leur. Bah, d'abord, ils m'ont parlé de leur goûter. Après, ils m'ont parlé de la. En fait, par exemple, la signalétique, elle était trop haute pour eux, ils la voyaient pas, donc fallait la mettre plus bas. Qu'ils aimeraient bien avoir des temps un peu tout seuls, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Des temps entre eux, tu vois, mais tout seul, sans maîtresse, sans le danger qu'il y a autour, tu vois, mais un peu des temps entre eux, tu vois, pour s'organiser aussi entre eux, se dire ce qu'ils avaient envie de faire entre eux. Et plus de temps de jeu. Et des fois, ils étaient fatigués. Tu vois, ils avaient besoin de dormir, ils étaient fatigués, mais pas forcément aux heures de la sieste. Enfin, c'est des trucs qui sortent, je trouve c'est génial parce que. Mais au début, c'est pas simple pour eux de le formuler parce qu'ils sont tellement dans une vie très directive.
Ah, c'est ouf, hein. C'est des enfants, mais ils sont déjà, c'est déjà moulé, quoi.
Voilà, et ils ont plein plein d'idées et c'est très très chouette de discuter avec eux, mais c'est comme très chouette de discuter avec les personnes âgées. Enfin, bon, bref, voilà, et c'est souvent des. Comme c'est les gens qui sont les. Enfin, en tout cas, les personnes de notre société qui sont les plus contraintes, parce que non seulement on les contraint dans des bâtiments qui ne sont pas faits pour eux, mais par d'autres, c'est des gens qui ont encore plus d'idées pour en
Ouais, bien
sortir.
sûr.
Donc c'est...
Et qui peuvent nous éclairer par ce contraste encore plus sur aussi nous, enfin la conscience des choses qui peuvent nous affecter et dont on peut avoir besoin.
Ouais, exactement.
C'est très intéressant de rajouter. Moi, je garderais ça en tout cas de ce que tu as dit, en plus du reste. Mais c'est vraiment la notion d'ajouter l'espace dans lequel on est. Parce qu'on est, on est, on, l'espace n'est rien sans nous. Et nous, on n'est rien sans l'espace non plus.
Oui.
Donc, faire du coaching pour aller mieux, développement personnel, toutes ces choses-là, c'est bien. Re-réfléchir à comment les gens travaillent ensemble et se structurent, et ça, c'est bien. Et par contre, oui, il faut aussi se dire, ben là, si jamais je me sens pas bien, c'est peut-être la structure dans laquelle je suis, c'est peut-être moi avec moi-même, mais c'est peut-être aussi l'espace, tout simplement.
Son
Parce que,
environnement, quoi, au
ouais,
sens
parce
plus
qu'on peut se
large.
créer plein de choses géniales, on peut bien manger, bien dormir, faire du sport, être dans une bonne boîte, avoir plein d'amis. Mais si par contre on habite dans un endroit qui est. Et puis qu'on fait que aller dans des endroits qui sont super désagréables ou bloquants, ou on va se sentir mal. Et puis des fois, on va même pas, si on n'a pas conscientisé ça, si on n'a pas conscientisé l'espace, on va peut-être des fois juste se dire, oh, bah, en fait, je comprends pas pourquoi je suis mal, il n'y a pas de raison, mais je suis mal. Bah ouais, bah, c'est peut-être ce paramètre-là qui avait été oublié et qui a à remettre en conscience, quoi. Cool, merci Maëlys pour cette conversation.
Merci
T'as un
Fabrice.
dernier truc à ajouter ou pas?
Ben merci, juste merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec toi et puis ben merci à ceux qui nous écoutent, voilà, pour ce bon moment
Cool,
partagé.
parfait, à bientôt. Et voilà, c'est un épisode de plus ou un épisode de moins, je ne sais pas, mais on va dire plutôt de plus parce que je compte bien encore interviewer beaucoup de personnes et avoir encore beaucoup de belles discussions comme ça. Voilà, j'ai appris énormément de choses, en tout cas de mon côté, j'espère que vous aussi. C'est vrai que la nouvelle définition de la richesse que j'ai maintenant est assez intéressante, parce qu'en effet, j'avais tendance à mettre de côté un peu cette notion de richesse en me disant que j'avais pas envie de me perdre dans le matérialisme. Mais au final, on peut se rendre compte que oui, on peut être riche, et on peut être riche de matériel, mais pas forcément dans la dimension accumulation et dans la dimension de se faire un peu posséder par ces objets, mais plus de reprendre un petit peu, pas forcément le contrôle, mais l'harmonie, retrouver une harmonie avec son environnement et avec ses objets. Donc merci vraiment Maëlys d'être venue pour cette belle conversation. J'espère qu'on aura l'occasion d'avancer ensemble sur plusieurs points comme la discussion autour des maisons de retraite, parce que je pense que c'est vraiment une priorité sur notre traitement social actuel. On ne peut pas continuer comme ça, à laisser traîner les personnes âgées dans des maisons à l'abandon, et puis des enfants dans des cours de récréation pas adaptés, sans forcément rencontrer des personnes plus vieilles qu'eux. Bah, bref, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc, merci encore pour cette conversation, et merci à vous surtout d'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve pour le prochain épisode, bien entendu. Je ne vous dirai pas qui c'est car je ne sais pas moi-même encore. Justement, le but, c'est maintenant que je puisse un peu me laisser surprendre par les propositions des personnes que j'ai déjà interviewées. Voilà, en tous les cas, si c'est la première fois que vous écoutez, eh ben, bienvenue dans ces podcasts de Nouvelles Portes. Et n'hésitez pas à vous abonner par le moyen que vous souhaitez, soit sur l'application Encore, soit sinon vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes, sur Google Podcasts, sur Spotify, un peu de partout, voilà. N'hésitez pas à partager aussi ou à mettre des petites notes dans les différentes applications de podcast. Ça aide le podcast à remonter. Le but du jeu, c'est pas que ça devienne un podcast star, mais juste que se trouver, si jamais ça les intéresse, d'explorer la curiosité. Voilà. Merci à tout le monde, et puis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Et voilà. À bientôt.